La science CQFD, Natacha Triou.
Et si une civilisation extraterrestre, très avancée technologiquement, cherchait à récupérer toute l'énergie d'une étoile, comment s'y prendrait-elle? Elle la mettrait en boîte. Ce concept, c'est la sphère de Dyson. C'est l'un des plus grands artefacts de la SF moderne, une mégastructure spatiale qui enveloppe une étoile et qui en récolte toute l'énergie émise. Ce concept, formulé par l'astrophysicien Freeman Dyson, est devenu un thème classique dans la science-fiction. De l'anneau-monde, de Larry Niven, au cycle d'Aumale, de Laurent Genefort, impossible d'être exhaustif. Cette biosphère artificielle inspire aussi bien les scientifiques que les écrivains. Elle révèle les rapports complexes qui existent entre science et littérature et prouve encore une fois que la SF est une expérience de pensée. Sphère de Dyson, une boule d'énergie. Julien Vaquez, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur postdoctorant en sociologie spécialisé des usages scientifiques de la SF, directeur de la revue Angle Mort, dont dérive la nouvelle collection des éditions L'Œil d'Or. Nicolas Prontzos, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicien, directeur de recherche CNRS à l'Institut d'astrophysique de Paris, auteur de Voyage dans le futur, l'aventure cosmique de l'humanité, réédité chez Le Pommier. Et Laurent Genefort, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain français de SF et de fantasy, auteur de space opéra, d'anticipation et notamment du cycle d'Aumale aux éditions Noël. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation en direct dans nos studios sur France Culture et merci à vous qui nous écoutez. N'hésitez pas à nous suivre sur X, ex-Twitter, et à nous poser des questions en public pour vous tous les jours. Des liens, de nombreuses ressources supplémentaires, c'est sur notre fil. Notre live tweet commence tout de suite. Alors, comment cet objet est-il né dans la science-fiction avant de devenir un objet scientifique à part entière? Comment est-il devenu finalement un outil de production de connaissances? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. On commence avec notre archive du jour et on vous présente un peu mieux ce concept. Nous sommes en 1975 et c'est avec Carl Sagan, excusez du peu.
The Dyson sphere was suggested by Freeman.
L'idée de la sphère de Dyson a été suggérée par Freeman Dyson, un physicien de l'Institut des études avancées de Princeton, et elle est basée sur le fait que la plus grande partie de la lumière émise par le Soleil est perdue. La Terre ne capte qu'une infime partie du rayonnement émis par le Soleil, et le reste de cette lumière se disperse et se perd dans l'espace interstellaire. Dyson a suggéré qu'une civilisation avancée pourrait mieux tirer profit de cette énorme quantité de lumière en entourant le Soleil d'une sphère, d'une coquille ou d'une série d'objets en orbite et en installant des centrales d'énergie et des communautés humaines sur la coquille. Cet objet sphérique s'appelle la sphère de Dyson ou la civilisation de Dyson. C'est une spéculation théorique, mais basée sur des arguments très simples. Et une civilisation qui s'accroît très rapidement aurait intérêt soit à limiter ce rythme d'accroissement, soit à utiliser éventuellement un projet tel que celui suggéré par Dyson. Personne ne sait s'il existe des civilisations aussi avancées, mais personne n'a fait assez de recherches pour le savoir.
Voilà un extrait de Perspective Migration, 100 milliards d'étoiles, sur France Culture en 1975. Julien Vaquez, on entendait une spéculation théorique, mais basée sur des arguments très simples.
Oui, alors ce qui était intéressant dans cette archive sur Carl Sagan, bon alors il décrit un peu le projet qu'avait défini Freeman Dyson dans un article qu'il a publié dans la revue Science en 1960. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il prend pas trop position par rapport à cet objet. Il pose cette question intéressante, est-ce qu'une civilisation aurait intérêt à continuer à faire accroître sa consommation énergétique et donc à construire une telle structure, ou est-ce qu'elle aurait intérêt au contraire à réduire sa consommation? Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est un objet qui pose aussi des questions civilisationnelles, des questions éthiques. Quel genre de société on veut en fait?
Votre réaction, vous aussi, Nicolas Prontzos, à l'écoute de cette archive?
Oui, moi j'avais lu, sans avoir connu cette archive, j'avais lu les articles originaux de Dyson. J'ai trouvé l'idée un peu trop avancée pour son époque, mais il l'admettait lui-même. Il avait beaucoup d'imagination, bien sûr. Il s'est basé quand même sur le fait qu'une civilisation comme la nôtre, une civilisation technologique, pendant les dernières décennies, avait une augmentation de sa consommation énergétique de l'ordre de 1% par an. Et simplement, il s'est projeté dans le futur. Alors, est-ce qu'il avait raison? Est-ce qu'il fallait imaginer que ça va se réduire? Ça, c'est des questions sociologiques. Il ne s'est pas posé des questions sociologiques. Les physiciens, en général, ils ne se posent pas ce genre de questions. Ils disent, qu'est-ce qu'on peut faire? Quel est le maximum d'énergie sur lequel on peut miser? Et le maximum, manifestement, c'est l'énergie du soleil. Toute l'énergie qu'on reçoit, ça vient du soleil. Et donc, il s'est dit, est-ce qu'on peut capter la plus grosse majorité de cette énergie? Pour l'instant, c'est 1 milliardième que reçoit la Terre. Et de 7 milliardième, on n'utilise qu'une petite fraction, 1/10 millième. Donc, il s'est dit, il reste encore beaucoup à faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, c'était son questionnement.
Il s'est demandé comment ne pas passer à côté d'une source d'énergie aussi monumentale. Vous aussi, Laurent Genefort, comment est-ce que vous avez lu vous aussi d'ailleurs cet article paru dans Science en 1960 de Freeman Dyson?
J'ai lu. Moi, ce qui m'avait frappé, c'était que c'était effectivement un point de vue plutôt physique en réalité. Et la science-fiction intervient quand ça devient, en tout cas ça devient intéressant pour nous, auteurs de science-fiction, quand on commence à le peupler, quand on commence à le voir comme un objet qu'on peut manipuler et qu'on peut, que ce soit plus juste un concept lié à la récupération d'énergie, mais qu'on va en faire autre chose en réalité. Et c'est ce que fait en réalité... par exemple, Olaf Stapledon, qui est finalement la première occurrence qu'on va trouver en littérature avant, en fait, en réalité, l'article en question, puisque c'était un roman qui datait de 1937, hein, qui était Créateur d'étoiles, où on trouve la première idée de sphère de Dyson, avant que ça s'appelle comme ça, avec justement des mégastructures autour du Soleil et qui sont peuplées. Donc au début, c'est intéressant comme évolution de ce trope qui va être d'abord très conceptuel, donc chez Stapledon, et ça va contaminer la science. C'est un mouvement qui est intéressant. Ça va contaminer la science et avec justement l'article de 1960 et ensuite ça va rebondir en hard science après, et qui va être utilisé dans la science-fiction sous sa forme scientifique définitive, on va dire.
Oui, en effet, la toute première mention, ce tout premier roman Créateur d'étoiles, Star Maker d'Olaf Stapledon en 1937, Julien Vaquez, c'est l'un des plus importants écrivains de science-fiction.
Olaf Stapledon, effectivement, c'est un écrivain de science-fiction britannique qui était très important au début du XXe siècle et qui a été un petit peu oublié. J'en recommande la lecture, hein. C'est assez intriguant comme écrivain, et il est aujourd'hui surtout lu et apprécié par des penseurs transhumanistes, en fait, parce qu'il a beaucoup de spéculations sur comment l'humanité doit s'étendre, comment la conscience humaine peut s'étendre au-delà de ce qu'elle est actuellement, et comment même le cosmos peut devenir conscient lui-même, quoi. Donc il y a tout un tas de thèmes très intéressants qu'il explore dans sa littérature et qui sont devenus des classiques de la science-fiction aujourd'hui. Et effectivement, c'est ce qui a inspiré Freeman Dyson pour ce concept. Alors Freeman Dyson, dans son article, lui, il parle d'une biosphère artificielle. C'est les écrivains de science-fiction qui, par la suite, lui ont donné son nom. Et donc lui a dit effectivement, non, mais c'est pas moi l'origine du concept. Si les écrivains de science-fiction connaissaient mieux leur classique, ils sauraient qu'en fait, l'idée vient d'Olaf Stapledon. Donc ça devrait s'appeler une sphère de Stapledon.
Oui, par la suite, Laurent Genefort, on voit bien que ça devient un thème classique de la science-fiction. Hein. C'est même d'ailleurs impossible de faire une liste tant le nombre de romans qui font référence aux sphères de Dyson sont très très nombreux.
Oui, vous m'entendez?
Oui, je vous entends. J'ai l'impression qu'il y a un petit délai dans notre communication.
Désolé, il y a eu
un... Non, je vous en prie.
Oui, effectivement. En fait, d'abord, ça a été utilisé vraiment en hard science avec des auteurs comme Larry Niven, alors qui va fabriquer une sorte de variante de la sphère de Dyson, qui est un nanomonde, qui finalement est la bande équatoriale, c'est-à-dire la bande finalement habitable d'une sphère de Dyson. Donc, ils vont tirer finalement la substance romanesque. mais tout en restant dans l'art science, hein, dans la science-fiction très crédible scientifiquement et liée à l'expérience de pensée que représente une sphère de Dyson. Ça va être utilisé aussi par Stephen Baxter. Mais en fait, ça va quitter le domaine de l'art science pour devenir un vrai trope de science-fiction littéraire qu'on va retrouver chez Ian Banks avec ses orbitales, chez Bob Shaw avant. Qui est la première vraiment description d'une sphère de Dyson complète, voilà, chez Juan Miguel Aguilera, plus tard, dans les années 90, avec là pour le coup, pas une coquille de Dyson, pas une enveloppe de Dyson, mais plutôt un essaim de Dyson, puisqu'il y a plusieurs types de sphères de Dyson, faudrait le détailler un peu. Et puis, ça va après contaminer le jeu vidéo et la sci-fi, c'est-à-dire, par exemple, il y a un épisode de Star Trek. Avec une sphère de Dyson. Donc en fait voilà, ça l'évolution du trope, en fait ça a été un trope très courant dans la SF finalement, qui a infusé un peu toutes les strates du genre.
Oui, Julien Vaquez, on voit qu'il y a de nombreuses variantes, hein, qui ont été imaginées, des nuages de Dyson, des bulles de Dyson, des cerveaux Matryoshka aussi.
Oui, alors le cerveau Matryoshka, c'est un concept un peu particulier qui a été développé dans les années 90 par des penseurs du transhumanisme. Lors de leurs conférences, les extra-conférences, qui étaient donc les premières conférences transhumanistes. Et alors là, c'est un concept un petit peu différent, c'est-à-dire que la sphère de Dyson va être utilisée pour d'autres projets, en fait, pour accroître la puissance de calcul, la puissance informatique. Et donc, on va construire une sphère à partir de matières un peu fantasmées, le computronium, une matière qui pense. Donc, l'humanité serait capable de transformer la matière elle-même pour qu'elle puisse faire des opérations informatiques. Donc ça, c'est pour le côté cerveau Matryoshka. Et pourquoi Matryoshka? Parce qu'en fait, au lieu de construire une seule sphère, eh bien, comme cette sphère va émettre de la chaleur, eh bien, elle va donc faire des radiations infrarouges, eh bien, on va pouvoir construire une deuxième sphère autour de la première qui sera alimentée par cette chaleur, et puis ensuite pourquoi pas une troisième et puis une quatrième. Donc Matryoshka un peu comme les poupées russes en fait.
Alors cette sphère de Dyson, Laurent Genefort, c'est un objet de la famille des BDO, hein, pour Big Dumb Object, ou en français les GTS, pour Grand Truc Stupide. C'est un sous-genre de la SF.
Oh bah oui, en fait il y en a eu plein, hein. Un des plus célèbres, c'est Rama de Arthur C. Clarke, hein, qui est une espèce de cylindre de O'Neill, donc un cylindre habité, donc un immense cylindre qui fait plusieurs kilomètres, et qui est d'abord pris pour un astéroïde, et qui va rentrer dans le système solaire, et on va s'apercevoir en fait qu'il va se rapprocher, qu'il va décélérer, et il y a toute une biosphère à l'intérieur, et des explorateurs vont aller voir ce qui se passe à l'intérieur, et en fait ils vont s'apercevoir que ce BDO, ce Big Dumb Object, et voilà, une espèce de vaisseau d'arche spatiale. Et d'ailleurs, les arches, ce sont des BDO, c'est-à-dire des immenses objets cosmiques qui vont générer du sense of wonder, puisque ben voilà, ça génère des images de démesure, et c'est pour ça qu'on en trouve souvent dans le space opéra, qui est comme son nom l'indique, de l'opéra plus grand que nature. Et bah voilà, il y a pas mieux qu'une sphère de Dyson pour générer du sense of wonder, puisque imaginez, c'est un des plus grands artefacts de la science-fiction. On en trouve des un peu plus des plus grands dans la SF, mais c'est très très rare. L'artefact iconique du Big Dumb Object, c'est bien la sphère de Dyson.
Et le sense of wonder, on le retrouve aussi, Julien Vaquez, dans évidemment la trilogie Spin en 2005 de Robert Wilson. Barrière à l'extérieur de laquelle le temps s'écoule 100 millions de fois plus vite que sur Terre.
Ah oui, c'est possible. Par contre, je ne l'ai pas lu.
Vous devriez. J'invite tous nos auditeurs à se procurer la trilogie Spin, qui est en effet assez palpitante. Alors admettons, spéculons, une sphère de Dyson autour d'une étoile serait-elle possible ? Existerait-il des matériaux suffisamment souples et solides pour résister aux immenses contraintes mécaniques ? Restez à l'écoute.
Cet objet présente tous les paramètres de la théorie de Dyson.
Quel genre de sphère ?
Une sphère de Dyson, on ne vous a jamais parlé de cette vieille théorie ?
À la fin du 19e siècle, un physicien du nom de Freeman Dyson émit une théorie selon laquelle il serait possible de construire une sphère creuse tout autour d'une étoile. Le but étant de pouvoir en exploiter toute l'énergie radiante.
France Culture, la science CQFD, Natacha Trio.
L'épisode de Star Trek The Next Generation en 92. Nous sommes en direct sur France Culture avec Julien Vaquez, Nicolas Prantsos et Laurent Genefort. Nous parlons des sphères de Dyson. On vient de parler de l'histoire et de l'invention de ce concept de biosphère artificielle. Julien Vaquez, vous nous avez dit quelque chose d'intéressant en première partie d'émission à l'instant. C'est qu'on parle là d'articles d'astrophysique et de récits de science-fiction. C'est un objet qui est assez ambivalent finalement.
Oui, tout à fait. Alors, pour moi, c'est particulièrement intéressant parce que justement, c'est un concept qui voyage d'un contexte à l'autre et qui remet en cause les frontières qu'on pense connaître entre la science et la littérature. La sphère de Dyson, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un objet de science ? Est-ce que c'est un objet de science-fiction ? Bah, c'est un peu l'un et l'autre. Et quand on regarde dans le détail des textes, les articles scientifiques et les récits de science-fiction, on se rend compte qu'il y a tout un jeu qui se fait, tout un dialogue en fait entre les écrivains et les scientifiques qui vont renverser toujours, qui vont traverser cette frontière, qui vont la renverser, où les écrivains de science-fiction prennent des postures parfois scientifiques, où les scientifiques prennent des postures parfois de science-fiction d'une certaine manière. Est-ce que l'article de Freeman Dyson, on doit le considérer comme un article scientifique ou comme un récit de science-fiction, etc., etc.
Oui. Nicolas Prantsos.
Je dois dire que dans son article, Dyson n'a jamais parlé d'une sphère, comme ça a été dit au départ. C'était un essaim de panneaux photovoltaïques, essentiellement autour du soleil, pour capter l'énergie. Et rien de plus. Et Dyson savait très bien, il avait dit dans son article, qu'une sphère, ça ne peut jamais exister. Une sphère solide autour. Alors, donc, tout ça, ça vient par la suite. C'est les auteurs de science-fiction qui l'ont rajouté. Les scientifiques savaient pertinemment, dès les débuts, qu'une sphère comme ça ne peut pas être stable.
Alors pourquoi justement une sphère comme ça ne pourrait pas exister? Puis je vous rends la parole, Julien Vaquez.
Une coquille sphérique, en fait. Pourquoi une coquille sphérique ne pourrait pas exister? Simplement parce que s'il y a la moindre perturbation, idéalement, s'il n'y avait dans l'univers que le Soleil au centre et une coquille sphérique autour, ça pourrait exister. Sauf que la coquille ne ressemble pas vraiment, dans son entité, l'attraction du Soleil. Tout ce qui se trouve à son intérieur ne ressemble rien. En réponse, donc on peut poser le Soleil au centre ou un peu à l'extérieur du centre, un peu plus de côté. Ça ne fait rien pour la coquille sphérique. Mais il y a d'autres objets à l'extérieur, de planètes, d'autres objets qui attirent d'une certaine manière la sphère, même s'ils ont une petite masse. C'est ce qu'on appelle des perturbations. Et la sphère répond à ces perturbations. Et si elle se met en mouvement, mais elle va finir par tomber sur le Soleil ou s'approcher beaucoup. Donc, ce n'est pas une position stable de la sphère. Et il y a un deuxième problème d'instabilité, c'est que la coquille sphérique, dépendant de la distance où elle se trouve par rapport à l'étoile et de son épaisseur, dans ses diverses parties, les diverses parties ont tendance, ils sont attirés par le Soleil, ils ont tendance à tomber vers le centre. Et ils vont se croiser. Donc, ça veut dire que à l'intérieur de chaque partie, il y a des tensions qui se développent, parce que les différentes parties ressentent une force qui les rapproche. Et à partir de là, ça dépend de la structure de ce matériel. Est-ce que c'est assez solide pour résister? Et il s'avère que pour une coquille qui se trouve à la distance de la Terre par rapport au Soleil, 150 millions de kilomètres, et une coquille d'un matériau normal, que ce soit un solide par exemple, mais non, ça ne peut pas tenir. Il faut imaginer des matériaux beaucoup, beaucoup plus solides, des matériaux qu'on ne sait pas aujourd'hui, qu'on ne connaît pas aujourd'hui.
Julien Vaquez.
Oui, alors juste pour revenir rapidement sur l'article de Freeman Dyson, en fait, donc le terme qu'il utilise, c'est biosphère artificielle, et je pense qu'il utilise aussi le mot shell. Et donc c'est peut-être ça qui a. Mais lui, il l'utilisait aussi de manière un peu métaphorique, en fait.
Non, biosphère, c'était, vous avez des panneaux solaires individuels, et vous pouvez imaginer installer une colonie artificielle là, qui profite de toute cette énergie. Mais ce ne sera pas une sphère solide.
Oui, effectivement.
Et dans l'article initial de Stable, dont on a parlé, Lui non plus, il n'avait pas parlé de sphère. Il parlait de piège de lumière.
Oui, exactement.
C'était l'expression qu'il avait utilisée, Stapleton. Et ces pièges, ça pouvait être des pièges individuels autour de l'étoile. Donc, ni Stapleton, ni Dyson n'ont parlé d'une coquille sphérique.
Mais cela dit, si je peux intervenir, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans la revue Science, il y a un courrier des lecteurs, et dans le numéro suivant, il y avait une lettre qui avait été envoyée par un écrivain de science-fiction qui est Poole Anderson, qui est donc un des auteurs classiques de l'âge d'or de la science-fiction américaine, dans lequel il dit que l'article de Freeman Dyson est très agréable à lire, mais justement, il avait mal compris, en fait. Lui, il pensait qu'il parlait d'une coquille solide, et c'est pour ça qu'il dit, mais en fait, moi, cet objet, rien qu'avec les contraintes physiques et astronomiques qui s'exerceraient sur cette coquille, elle est strictement impossible. Et donc là, il se met dans une position où il dit, mais cela dit, voilà, je voudrais quand même alerter les scientifiques, donner un avertissement aux scientifiques que peut-être il ne faut pas aller sur ce chemin-là, sur ce territoire-là, parce que ça, c'est le territoire de l'écrivain de science-fiction et c'est plus l'écrivain du scientifique. Et Poole Anderson, c'était un écrivain de science-fiction qui avait une très grande idée, une très grande image du scientifique dans la société. Pour lui, les scientifiques, c'est les gens qui sont les plus audacieux, les plus imaginatifs, et l'écrivain de science-fiction, il est derrière, à suivre, en fait. Et donc, il donnait un avertissement aux scientifiques en disant, vous n'avez pas le droit de nous faire croire que l'impossible est possible. Ça, c'est le travail des écrivains de science-fiction. Si vous, scientifiques, vous le faites, nous, après, on sera perdus.
Laurent Genefort, votre réaction, vous aussi, en tant qu'écrivain de science-fiction?
Alors, je dirais même, pour préciser, qu'en fait, on n'a même pas à faire. En fait, on n'a pas de mission scientifique en tant qu'auteur de SF, c'est-à-dire qu'on n'a pas à dire ce qui est possible ou pas. Nous, notre boulot, c'est de créer des expériences de pensée, de mener des expériences de pensée intéressantes, mais qui n'ont pas à être validées par le réel, en réalité. En fait, la véracité, on s'en fiche, et même en hard science, ce qui nous rapproche, nous, de la science, et on peut considérer par contre que c'est un point de convergence entre la science et la science-fiction, et en particulier la hard science, c'est l'expérience de pensée. Et dans le cas de la sphère de Dyson, c'est encore plus emblématique, et c'est peut-être pour ça que c'est devenu iconique comme artefact de la science-fiction, c'est que ça va concrétiser dans sa forme, dans sa matérialité, une expérience de pensée qui est un peu comme une expérience de laboratoire où le réel est simplifié, justement. C'est-à-dire qu'une sphère de Dyson, c'est quelques caractéristiques basiques et c'est quelques questionnements basiques. C'est-à-dire comment ça tient en restant stable, donc on va penser aux matériaux, comment ça tourne, quelle énergie il faut lui imprimer, à combien il faut que ça tourne, quelle taille ça a, quelle température on a à la surface, comment on alterne les jours et les nuits, en fait, mais pas grand-chose d'autre. Finalement, sinon, évidemment, qui a fait ça, son origine, parce qu'il faut imaginer une espèce avec énormément de ressources pour la fabriquer. Donc, l'expérience de pensée, c'est ça, j'allais dire, qui fait le lien entre la SF et la science, et le vecteur de ça, ça peut être justement des artefacts comme les BDO, les Big Dumb Objects, dont la sphère de Dyson est un excellent exemple.
Alors cet artefact, justement, quelle température, à quelle distance du Soleil devrait-on placer cette sphère? Freeman Dyson lui-même dit que le plus intéressant, ce serait de la placer à la distance Terre-Soleil, justement, Nicolas Prantsos, pour bien se rendre compte de la taille d'un tel artefact.
Oui, la distance Terre-Soleil, c'est 150 millions de kilomètres et la lumière...
Mais une unité astronomique.
Une unité astronomique pour les astronomes. Et la lumière met 8 minutes pour traverser cette distance à une vitesse de 300 000 kilomètres par seconde. Alors, pourquoi cette distance? C'est une question de température, comme Laurent Genefort vient de le dire. On sait depuis longtemps que la vie sur Terre est possible s'il y a de l'eau liquide. Et l'eau liquide, on sait que il existe entre des températures de 0 et 100 degrés. Et on sait aussi que quand vous rapprochez trop à la surface du Soleil, il fait presque 6000 degrés. Et quand vous allez très très loin, il faut beaucoup moins que 0 degrés Celsius. Donc il y a une zone dans laquelle la température se trouve entre 0 et 100 degrés. Et c'est ce qu'on appelle la zone habitable circumstellaire autour des étoiles. Donc, on pourrait bien sûr imaginer de la placer très près du Soleil, on aurait plus d'énergie, mais ensuite, il fallait de lui faire un système de climatisation pour évacuer la chaleur. Et on pourrait la placer aussi très très loin. Mais il ferait trop froid et après il faudrait trouver d'autres moyens pour la chauffer. Donc à peu près la distance de la Terre qui se trouve dans la zone habitable paraît correcte. Et c'est pour ça qu'il a imaginé une structure aussi élevée. Maintenant, il existe des scientifiques justement qui essayent d'imaginer des choses plus compactes autour d'une naine blanche. Une naine blanche, c'est une étoile compacte, ça fait la taille de la Terre à peu près, quelques milliers de kilomètres de rayon. Et ça n'émet pas beaucoup de lumière, c'est pour ça qu'on les appelle des naines, mais ça émet quand même suffisamment pour faire substituer une zone habitable, pas aussi imposante que la structure de Dyson, mais beaucoup plus petite. Et il y a des gens qui ont calculé les dimensions, la température, etc., autour de naines blanches.
En tout cas, par rapport à, pour revenir en tout cas à la distance Terre-Soleil autour d'une étoile comme le Soleil, cette sphère de Dyson aurait une certaine température, comme vous nous dites, mais selon le concept, hein, elle est quasi invisible de l'extérieur puisqu'elle enferme son étoile.
Oui, la lumière de l'étoile n'est pas vue de l'extérieur, sauf que l'énergie ne se perd pas. Donc l'énergie, on la capte, mais on ne peut jamais l'utiliser avec une efficacité de 100%. Ça, c'est le deuxième principe thermodynamique. Voilà. Donc, une partie de l'énergie se transforme à la fin, ça se transforme en chaleur, et cette chaleur doit être évacuée. Et elle est évacuée à une température, à une longueur d'onde, puisqu'on parle de la lumière, qui correspond à la température. Et à la température de 15 degrés Celsius, cette longueur d'onde se trouve dans l'infrarouge. Donc l'émission se ferait dans l'infrarouge, qui est invisible à nos yeux, mais visible par nos télescopes infrarouges. Et d'ailleurs, Dyson était pleinement conscient, et c'est pour ça qu'il disait on doit chercher dans le ciel pour voir s'il y a des sources d'émissions infrarouges qui ne sont pas explicables par des moyens astronomiques plus actuels, par des modèles astronomiques, des objets astronomiques conventionnels. Mais il y avait une notice à la fin qui disait « Non, attention, je ne vais pas dire que si nos collègues astronomes trouvent ces objets-là, que c'est des sphères de Dyson. Il faudrait vérifier par d'autres moyens supplémentaires. »
Voilà, les discussions quand même autour de cet objet sont surtout relatives à sa possibilité et à son réalisme, plus qu'à sa réalité. Non, moins, des équipes de scientifiques sont à la recherche de sphères de Dyson. Comment mettre en place des protocoles d'enquête afin de prouver son existence matérielle? Restez à l'écoute.
I see you.
direct sur France Culture, Harmony of Sphere, de Donna Blue, car nous parlons des sphères de Dyson, un objet de fiction et de science. On en parle avec nos trois invités du jour. Julien Vaquez, chercheur postdoctorant en sociologie, spécialisé des usages scientifiques de la science-fiction et directeur de la revue Angle Mort. Nicolas Prantsos, astrophysicien, directeur de recherche CNRS à l'Institut d'astrophysique de Paris. Et Laurent Genefort, écrivain français de SF, de fantasy, et notamment du cycle d'Omal aux éditions de Noël. Alors pour améliorer les chances de détection de sphères de Dyson dans notre galaxie, les chercheurs utilisent l'intelligence artificielle pour filtrer, parmi l'immensité d'étoiles, celles dont les critères seraient pertinents. On continue d'en parler avec vous, Céline Lozette. Bonjour.
Bonjour, Natacha.
Pour le reportage du jour, vous avez rencontré une chercheuse qui suit de près la traque de ces structures.
Oui, avec Elisabeth Piotella, qui est ingénieure et membre du comité SETI France. Sa spécialité, c'est la recherche de technosignatures cosmiques. Cela peut passer par des simulations pour tester nos capacités terriennes à les décoder ou bien à les traquer indirectement avec des télescopes tels que Gaïa qui sondent la Voie lactée. Et selon elle, l'intrication entre la recherche scientifique et l'imagination artistique est la meilleure des heuristiques pour identifier des potentielles sphères de Dyson.
Un signe dans l'espace, donc ça a été créé par une artiste italienne, Daniela De Paolis. Donc elle a travaillé avec une petite équipe de 5 personnes. Elles ont conçu un signal. Ce signal a été transmis via un satellite de l'ESA sur Terre, où il a été reçu par 3 radiotélescopes différents. Et là, une fois que le signal a été décodé, et décrypté finalement par les radiotélescopes et par les ordinateurs sur place, et les terriens ont eu des 0 et des 1 à décoder. Et pendant plus d'un an, en fait, il y a une grande communauté de personnes qui s'est amusé à déchiffrer ce signal. Et c'était, je pense, ce qu'il y avait vraiment de très 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 intéressant là-dessus, c'était de se dire, mais comment est-ce que l'humanité peut collaborer? Et si jamais on reçoit un vrai signal qui n'est pas fait par des humains, comment on va se débrouiller?
Ce qui est intéressant dans le cadre de l'étude et de la détection de potentielles sphères de Dyson dans notre environnement cosmologique local, c'est que c'est peut-être la démarche inverse. Ce ne seraient pas des signaux qu'on nous envoie, qu'on devrait sonder, mais là, on doit traquer quelque chose dans l'infrarouge et qui n'est pas vraiment détectable directement.
Oui, c'est ça. Il y a un article qui a été publié en mai dernier sur l'utilisation des données de Gaïa pour la détection de sphères de Dyson. Et donc, un des problèmes de tout ce qui est recherche de ce qu'on appelle de technosignature, qu'avant on appelait beaucoup SETI, mais on s'est rendu compte qu'on ne cherchait pas directement de l'intelligence, mais plutôt un truc qui nous prouverait qu'il y a de l'intelligence. Et donc là, c'est de dire, mais qu'est-ce qu'on cherche en fait? Donc l'idée, c'est de prendre, je crois, 5 millions d'objets là-dedans et d'utiliser une intelligence artificielle pour extraire, finalement, comme un entonnoir, et pour garder que ce qui est intéressant.
Donc on filtre en fonction de quels critères, par exemple?
Alors, déjà, on fait une hypothèse en se disant, par exemple, une sphère de Dyson, c'est quelque chose d'homogène. C'est pas un truc, par exemple, un triangle. Donc, on prend cette hypothèse, on crée un modèle, on se dit, voilà, dans ce catalogue d'étoiles, c'est ça qu'on cherche. Donc, on fait une hypothèse et on regarde dans tout ce catalogue ce qui correspond à cette hypothèse-là. Et puis, une fois qu'on a ça, là, ils ont obtenu, je crois, à la fin, 7 étoiles qui pourraient être intéressantes.
Justement, vous avez avec vous ce papier, donc le projet Hephaistos. Ouais. Que dit cette étude quant au profil type de ces 7 étoiles? Est-ce que ce sont des naines rouges, par exemple, ou d'autres profils?
Alors, il y a des étoiles naines. Peut-être que ce n'est pas des sphères de Dyson, mais que ça peut être aussi autre chose. Et c'est pareil, il y a toujours des problèmes d'erreur, de mesure, etc. Mais c'est ce qui est aussi intéressant, c'est-à-dire qu'on peut rechercher des sphères de Dyson, puis finalement découvrir des autres objets, des autres phénomènes, voire améliorer les instruments. C'est aussi important que la science-fiction soit liée à la science. La sphère de Dyson, c'est les auteurs de science-fiction qui l'ont décrit en premier, même si Kardashev avait cette idée de civilisation qui pourrait maîtriser l'énergie de son étoile. Donc on a besoin de tout, on a besoin vraiment à la fois des auteurs de science-fiction pour imaginer à quoi pourrait ressembler la vie extraterrestre.
Bien sûr, parce qu'eux, avec leur créativité et leur imagination, ils peuvent aller plus loin dans les hypothèses et les scénarios qu'on peut figurer sur ces modes de vie.
Oui, tout à fait. Et puis c'est aussi l'idée de se dire qu'une étoile n'est peut-être pas habitable, par exemple si c'est une naine rouge, etc., mais peut-être que l'environnement est habitable autour. Donc il y a plein de choses qu'on peut imaginer. C'est-à-dire que là, on peut voir que même au niveau des exoplanètes, les premières exoplanètes étaient très très surprenantes par rapport à ce qu'on attendait. On a trouvé des Jupiter qui étaient très proches de leurs étoiles.
Des géantes gazeuses, oui.
Voilà. Et on n'imaginait pas qu'elles puissent être aussi proches de leurs étoiles. On peut imaginer pas mal de choses.
Merci Céline Lozen pour votre reportage. Nicolas Prandsos, une réaction à ce qu'on vient d'écouter?
Oui, il est vrai que dans son article original, Dyson a précisé quand même qu'il faut chercher des signatures donc dans les spectres infrarouges des étoiles autour de nous. Et s'il y a quelque chose qui ne ressemble pas aux signatures qu'on connaît, là, on pourrait soupçonner effectivement qu'il s'agit d'une sphère de Dyson. Mais il n'est pas sûr qu'on connaît toutes les signatures des objets naturels. Il y a des objets naturels qui émettent d'une manière qu'on n'a pas encore trouvée, s'ils sont rares. Et puis, on n'est pas sûr, même s'il y a une civilisation avec une sphère autour de Dyson, on ne sait pas comment il va modifier le spectre de ce qu'il va sortir. Donc, en fait, on ne sait pas très bien ce qu'on cherche. Et par exemple, pour revenir aux recherches actuelles, parce qu'il est vrai qu'avec les données Gaïa qui ont été mentionnées, il y a des gens qui ont cherché, et sur un catalogue de je ne sais pas combien de dizaines de milliers d'étoiles, ou de centaines de milliers, ils ont trouvé quelques objets, moins qu'une dizaine, dont la signature, c'est-à-dire le spectre de ces étoiles, quand ils analysent son lumière dans l'infrarouge, ne ressemble pas à des objets connus. Mais ils soupçonnent que ça peut être dans les champs de vue, il se peut qu'il y a des galaxies lointaines qui émettent dans l'infrarouge et dont la signature ne ressemble pas à la signature des étoiles dans l'infrarouge. Donc, ce n'est pas toujours évident quand même. Même si on trouve des choses qui ne ressemblent pas, ça ne veut pas dire que c'est une signature extraterrestre.
Julien Vaquez, il y a justement une étude comme ça récente en 2015 qui a tiqué votre curiosité également.
Oui, effectivement. En fait, la sphère de Dyson, c'est un sujet qui est très actuel et j'ai le sentiment qu'il devient de plus en plus actuel pour tout un tas de raisons. Et l'une de ces raisons, c'est justement, donc j'y pensais avec ce reportage, c'est la multiplication en fait de nouveaux outils d'observation, de nouvelles technologies d'observation qui permettent de détecter notamment des exoplanètes. Et en 2015, il y a eu cet astrophysicien américain qui s'appelle Jason T. Wright qui a publié un article dans lequel il cherche justement à refonctionnaliser ces objets, ces outils d'observation, en disant ces outils sont faits pour observer et détecter des exoplanètes. Ils peuvent servir aussi à détecter des sphères de Dyson. Et donc, il y a eu tout un débat au sein de la communauté scientifique à cette époque-là, 2015-2016, parce qu'il avait identifié une étoile en particulier qui avait été observée par le satellite Kepler. Alors, dans les bases de données, cette étoile était notée, je peux m'en souvenir de mémoire, KIC8462852.
Bravo.
Et donc, c'était une étoile, comme vous l'avez décrit, Nicolas, c'était un objet qui semblait, qu'on n'arrivait pas à expliquer, une sorte d'anomalie. Et donc, Jason T. Wright expliquait qu'il fallait utiliser ces anomalies et les étudier aussi dans le cadre d'une recherche d'intelligence et de civilisation extraterrestre. Et donc, il y a eu tout un débat sur le fait que il faut quand même prioriser les hypothèses. Il faut d'abord quand même penser à des hypothèses de phénomènes naturels. Et ensuite, si tous ces phénomènes naturels sont éliminés, on peut penser à une civilisation extraterrestre en dernier recours. Mais voilà, le fait qu'il avait alimenté ce type d'hypothèse avant. Alors, il prend tout un tas de précautions dans son article, évidemment, parce que on peut pas dire ça de manière gratuite, mais.
Mais vous souhaitez commenter, Nicolas Prandsos?
Oui, justement pour dire qu'il y a un précédent quand même. Enfin, vous pourrez... Déjà, dans l'histoire de la science, il y a un précédent. Dans les années 60, quand avec les radiotélescopes, on a détecté dans une direction du ciel, une étudiante anglaise a détecté des signaux répétitifs. Bip, bip, bip. Il y a continu plusieurs fois par seconde. Et... ça ressemblait à un signal artificiel.
Oui, la première chose
qui venait à l'esprit, c'était que c'était des extraterrestres. Et pourtant, ce n'était pas.
Et ça, d'ailleurs,
c'était des pulsars, c'était les phénomènes des pulsars.
Et d'ailleurs, c'est une histoire qu'on vous raconte dans notre podcast sur la recherche de vie extraterrestre, une recherche de longue haleine. Pour revenir sur notre sphère de Dyson, l'idée initiale, c'est seulement de trouver un moyen de récupérer la totalité de l'énergie issue d'une étoile. Par la suite, les auteurs de science-fiction n'ont fait autre chose que des panneaux solaires. Ils ont apporté un second niveau de réflexion. Ce sont des sphères de Dyson habitables, Laurent Genefort.
En fait, c'est un peu la nature, la tendance de la science-fiction que de peupler en fait ces artefacts parce que on génère des histoires. En fait, nous on fait des histoires. Et pour avoir des histoires, il faut des personnages, donc de la vie, tout simplement. Et donc on va le chercher en fait à les peupler tout simplement. Et le fait que on veuille les peupler, ça génère en soi en fait des nouvelles thématiques. C'est par exemple une des caractéristiques de la sphère de Dyson, c'est que si vous tenez debout à l'intérieur de la coquille, à la surface de cette coquille, et que vous avez de l'atmosphère, déjà vous vous posez la question, mais comment l'atmosphère elle est venue, comment on la maintient là où elle est, etc. Et le fait que vous soyez à l'intérieur d'un système clos comme ça, d'une coquille close, vous verrez jamais d'étoiles. Et en plus, la vastitude de l'artefact fait que l'horizon sera totalement plat. Donc, le romancier va se dire, mais quelle est l'idée de l'univers que se font les personnages sur place, des gens qui n'ont jamais vu d'étoiles, des gens pour lesquels l'horizon est totalement plat, sauf peut-être avec des instruments de mesure qui montreraient une légère concavité, mais où il y a une platitude apparente. Bon, ben ça nous enrichit et ça permet de créer des romans avec une charge métaphorique. Par exemple, pour Romal, par exemple, ce monde apparemment plat donner une certaine idée de la science dans notre histoire, qui correspondait à un état de faible connaissance, la platitude du monde, et aussi un rapport de l'individu à la science. Et quand j'ai créé le SIC, c'était aussi une quête du savoir. Et d'ailleurs, dans un des romans, certains personnages font de la géodésique pour calculer la taille de l'artefact. Voilà.
Mais justement, ce cycle au mal et cette sphère de Dyson que vous avez imaginé, je propose une lecture, un extrait de l'avant-propos du tome 2 et 4 du cycle de l'Omal. Qu'on imagine un petit soleil calme, Hélial, emprisonné dans une immense sphère de matière quasi indestructible, le carbe, qui forme une enveloppe solide en rotation autour de lui. Sur sa face interne, cette coque est parsemée de vastes oasis atmosphériques, les grands airs. Celle-ci abrite des milliers d'espèces intelligentes, ou raies. Les mythiques Vank ont édifié cet artefact cosmique, auquel les humains donnent le nom d'Omal. Et ils y ont importé les raies. L'une de ces grandes airs est occupé par l'humanité et deux autres raies connues, les Hodkins et les Shill. La distance de l'artefact sphérique à Hélial se monte à 121 millions de joules, pour une superficie de 2,83 puissance 10 23 mètres carrés. Elle est si vaste qu'à la surface, on ne peut en apprécier la courbure sans instrument de mesure. L'espace intérieur, vide et vaste comme un petit système solaire, compte deux planétoïdes, les captives, invisibles depuis la surface de la grande aire. Une couche gazeuse de cristaux phototropes de 10 cm d'épaisseur, nappant la haute atmosphère de la grande aire, assure l'alternance jour-nuit. Il n'y a ni aube ni soir, la polarisation et la dépolarisation des cristaux étant instantanées. Omal bénéficie d'une insolation clémente due à la stabilisation d'Hélial par des procédés mystérieux. Deux saisons déterminent l'année, la saison des pluies, ou éclosale, et la saison sèche, ou séquigiale. Laurent Genefort, pour le cycle, l'Omal, vous êtes inspiré de l'Anneau Monde, de Larry Niven, c'est même peut-être même une sorte d'hommage.
Ah oui, tout à fait. L'anneau-monde, en fait, c'est la bande équatoriale d'une sphère de Dyson. Et en fait, c'est topologiquement la plus intéressante. Si on utilise la force centrifuge pour générer de la gravité, en fait, c'est la bande équatoriale qui est la plus intéressante, en fait, pour la pesanteur artificielle. Donc, ce qu'a fait Larry Niven, c'est qu'il a supprimé il a décaloté, on va dire, la sphère de Dyson, en haut et en bas, pour ne garder que la zone habitable, je dirais. Et donc, je me suis inspiré, effectivement, de l'anneau-monde, qui était, pour moi, la première description vraiment réaliste, c'est toujours avec des guillemets quand on parle de science-fiction, mais d'une sphère de Dyson.
Oui, vous conservez cette idée de ruban équatorial, mais comment vous avez construit votre sphère de Dyson à vous ?
Alors en fait, moi j'ai procédé comme n'importe quel auteur de SF, hein, c'est-à-dire que j'ai essayé de créer mes propres idées, donc d'éviter d'utiliser celle, par exemple, de Larry Niven, qui va utiliser pour l'alternance jour-nuit et pour la pesanteur artificielle. Pour la pesanteur artificielle, et pour la résistance du matériau, il va utiliser du neutronium, donc un matériau qui suffit aux contraintes mécaniques qui sont dues à la rotation de l'anneau-monde, qui est une structure rigide comme ma sphère de Dyson. Mais en fait, les contraintes sur un tel anneau ou une telle sphère, hein, sont, en fait, ça représente un nombre astronomique de mégapascal. C'est quelque chose comme 100 millions de fois plus forte que la résistance de la fibre de carbone, par exemple. Donc on ne peut pas être vraiment réaliste. Donc moi j'ai préféré évacuer ce problème. J'ai gardé l'idée de pesanteur artificielle liée à la force centrifuge. Je savais que c'était pas réaliste parce que pour que ce soit effectif, il faudrait que pour avoir un G, donc une pesanteur qui correspond à celle de la gravité sur Terre, il faudrait que la sphère de Dyson fasse un tour en une dizaine de jours à peu près. On peut le faire en fiction, dans la réalité, ce serait quand même très 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 compliqué.
Et pour l'alternance jour-nuit
Alors, pour l'alternance jour-nuit, Niven, il avait imaginé à l'intérieur de son ruban, en fait, un autre ruban, en fait, qui lui était percé, et c'était une alternance de plaques qui tournait à une vitesse différente de celle de l'anneau-monde lui-même et qui générait en fait des alternances jour-nuit simplement par un système d'éclipse, on va dire. Et voilà. Et donc j'avais imaginé un système de planétoïdes qui orbitait dans l'espace entre l'étoile et la surface de la sphère et dont les éclipses généraient des demi-nuits, des quarts-nuits, etc. Mais en fait, je me suis vite rendu compte qu'il en aurait fallu des millions. Et je sentais que ça ne fonctionnait pas, en fait. Donc, en plus de ça, ma zone habitée d'Omale étant toute petite, il faudrait des millions de planétoïdes. Bref, ça ne fonctionnait pas. Et c'est comme ça qu'est née l'idée des cristaux phototropes, qui est un phénomène local, qui est juste au-dessus de l'atmosphère, qui est un phénomène, en fait, atmosphérique. Et en gros, il me fallait de l'opacité. Et l'opacité générée par ces sortes de cristaux liquides gazeux, et qui se polarise et se dépolarise tous les 12 heures, en fait, ça convenait très bien. Voilà, c'est comme ça que c'est né.
Ça, c'est drôle parce que l'invention justement de ces cristaux phototropes, ça vous est venu parce que vous êtes allé voir justement un astrophysicien, Jacques Paul, exobiologiste à Créteil, pour vous orienter, vous conseiller dans la recherche d'un monde un peu plus crédible.
Voilà, tout à fait. Il y a Jean-Louis Trudel qui est un scientifique canadien et auteur de science-fiction d'ailleurs, qui a fait les calculs astronomiques, et c'est Jacques Paul effectivement qui m'a permis de résoudre dans le dialogue le problème de l'alternance jour-nuit. En fait, et on déjeunait tout simplement et on essayait de faire surgir des idées, et puis à la fin du déjeuner en fait on n'avait rien trouvé. Si, il avait juste démoli les idées que j'avais mais qui n'étaient justement pas crédibles, Et à un moment, je regarde ma montre et je dis, oh là là, on n'a rien trouvé. Et la fin du déjeuner arrive. Et c'est là que ça a tilté. Parce que j'avais une montre à cristaux liquides. Et je me suis rappelé comment fonctionnent les cristaux liquides. C'est-à-dire que c'est dans un état désordonné. Et que voilà, quand on fait passer du courant dans des cristaux liquides, ils vont se polariser et devenir opaques. Et donc, j'ai imaginé qu'au lieu d'un flux d'électrons, on ait des photons, donc une insolation. Et que des cristaux que j'appelle, donc que j'ai appelé cristaux phototropes, se polarisaient une fois qu'ils étaient chargés d'énergie via les photons qui lui arrivaient dessus par l'étoile.
Voilà. Et voilà comment construire des nuits forcément totales sans étoiles. Julien Vacquez, on voit là, aussi le témoignage de Laurent Genefort, que la science-fiction, c'est quelque chose qui se construit sur des variations, comme l'exploration de différentes hypothèses.
Oui, tout à fait. Mais même encore plus, je dirais que ça se développe aussi à travers différents usages et différents rapports à la science. Alors, c'est très intéressant ce que nous raconte Laurent sur la manière dont il a construit sa sphère de Dyson, qui est quand même quelque chose d'assez technique. Et je voudrais juste revenir sur, si c'est possible, sur l'exemple de Larry Niven et de son nanomonde. Parce que c'est quand même un roman assez particulier et qui nous permet aussi de montrer ces différentes formes d'interaction entre science et science-fiction. Parce que ça se présente comme un récit d'aventure spatiale, un space opéra. Mais quand il décrit son nanomonde, il le fait avec une précision mathématique. Il y a des extraits quand même où les personnages discutent des caractéristiques de cet objet et il nous donne tous les chiffres. Et pourquoi il nous donne tous les chiffres? Parce qu'il a fait les calculs. Donc il veut qu'il y ait une certaine crédibilité à son récit. Mais dans cette forme de hard science, de science-fiction dure comme on l'appelle, c'est aussi le travail du lecteur qui prend plaisir à faire les calculs. C'est un peu cette forme de science-fiction, c'est une science-fiction qui est aussi faite pour des gens qui aiment faire des maths. Et donc ils ont fait les calculs et ils se sont rendus compte justement que c'était instable l'anomonde qui était décrit dans le roman de Larry Niven. Et donc quand le roman a été nominé et a reçu le prix Hugo lors de la World Science Fiction Convention en 1971 à Boston, il y a eu tout un tas de lecteurs qui ont hurlé « Non, l'anomonde est instable !» Et donc, du coup, Larry Niven a écrit un deuxième roman, Les ingénieurs de l'anomonde, où il a essayé de corriger ses erreurs, en fait. Donc, le premier degré de rapport entre science et science-fiction, il est là, c'est-à-dire que c'est des écrivains et des lecteurs de science-fiction qui s'amusent à imiter l'activité scientifique, l'activité d'évaluation par les pairs, par exemple. Donc ça, c'est juste un premier niveau. Et le deuxième niveau, c'est que le Freeman Dyson devient un personnage dans le roman. Donc les personnages commencent à discuter l'article de Freeman Dyson, et on sent bien que la manière dont il présente son nanomonde, c'est pas seulement une variante, comme vous avez dit, mais c'est aussi une manière d'améliorer le concept initial. Donc Larry Niven, il écrit son roman pour s'engager dans une conversation avec Freeman Dyson et lui dire, tu vois ton concept, ben moi je le fais encore mieux. Et donc bon, évidemment c'était raté puisque les calculs ne fonctionnaient pas, mais voilà, c'est aussi s'engager dans un dialogue et pas seulement chercher à représenter la science, quoi.
C'était une très belle conclusion pour montrer comment la science interagit de façon créative avec la science-fiction et vice-versa. Dans quelques secondes, on retrouve la chronique d'Alexandra Delbaum. Mais d'abord, j'attire votre attention sur un événement. À partir de demain, c'est la Fête de la Science, une 33e édition qui se tient jusqu'au 14 octobre partout en France. Un très grand nombre d'événements gratuits. Le thème cette année, c'est un océan de savoir. Merci à vous trois de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Tout de suite, c'est la chronique avec science.
Peut-on soigner le diabète de type 1? Un petit rappel pour ne pas confondre les deux diabètes. Le diabète de type 2 se développe avec l'âge. Il s'agit d'une résistance à l'insuline. L'organisme y est moins sensible, ce qui force les cellules du pancréas, les îlots de Langerhans, à augmenter la production d'insuline jusqu'à s'épuiser totalement. C'est donc une maladie qui met du temps à se mettre en place. Le diabète de type 1 est une pathologie entièrement différente puisqu'elle est auto-immune. L'organisme lui-même s'attaque et détruit détruit les cellules pancréatiques, ce qui les rend inopérantes, et provoque une hyperglycémie, avec la même panoplie de symptômes et de conséquences potentiellement fatales que le diabète de type 2. On peut donc limiter la survenue du diabète de type 2, mais pas du 1. La bonne nouvelle, c'est que celui-ci se prend très bien en charge, mais on n'en guérit pas encore. Roberto Malone est diabétologue à l'hôpital Cochin et directeur de recherche d'une équipe INSERM à l'Institut Cochin.
Aujourd'hui, les traitements du diabète de type 1 vivent déjà une véritable révolution parce qu'on a des traitements de remplacement par l'insuline qui n'est plus faite par ces cellules bêta du pancréas qui sont détruites, qui sont de plus en plus performants. Donc, on a d'un côté des insulines de plus en plus efficaces en stylo, on a des pompes à insuline, et puis la révolution qui est en cours, c'est celle qu'on appelle de la boucle fermée, c'est-à-dire des pompes à insuline qui communiquent avec un capteur de glucose, et donc qui sont capables d'effectuer un certain nombre d'ajustements de la délivrance d'insuline selon les niveaux de glycémie de façon complètement autonome. Cela dit, c'est une prise en charge qui est encore, à mon avis, pas complètement satisfaisante parce que finalement, on arrive à faire un diagnostic quand les dégâts sont déjà faits.
C'est pour cela que la seule solution actuelle pour soigner le diabète de type 1 sans injection d'insuline, c'est la greffe. À partir de pancréas de plusieurs donneurs sains, on isole les îlots de Langerhans, ces petites cellules productrices d'insuline, et on les injecte dans le foie d'un receveur malade. Le problème, c'est que tout le monde n'est pas éligible, que la disponibilité en organes est limitée et que cette thérapie ne dure pas dans le temps. D'où la nécessité de développer d'autres types de transplantations, comme dans cette nouvelle étude parue dans la revue Cell. Il s'agit d'une greffe de cellules souches de la patiente elle-même. On parle de greffe autologue, une greffe de la patiente vers la patiente. Deuxième particularité de la méthode, cette thérapie a eu recours à des cellules dites IPS. L'objectif est de transformer une cellule souche spécialisée en cellule qui peut tout faire. On parle de cellules pluripotentes. Je vous donne la recette. Prenez des cellules souches de graisse de cette patiente porteuse de diabète de type 1, reprogrammez-les avec des médicaments pour qu'elles deviennent pluripotentes, puis orientez-les pour qu'elles se transforment non pas en cellules de graisse à nouveau, mais en cellules pancréatiques. Et pour finir, déposez les cellules toutes neuves dans l'abdomen de la patiente. Et résultat, un an après cette transplantation de cellules IPS, elle est considérée comme guérie de ce diabète.
Le résultat, je dois dire, avec toutes les précautions des scientifiques, malgré ça, sont assez impressionnants. Déjà pour la caractérisation détaillée de la préparation de ces cellules. Et puis, ces résultats sont d'autant plus impressionnants pour les tableaux cliniques de la patiente choisie. C'est une patiente qui avait un diabète de type 1 depuis 12 ans, qui avait déjà eu deux greffes de foie pour d'autres raisons, qui avait déjà eu aussi une greffe de pancréas, greffe qui avait dû être enlevée par la suite pour des complications. Donc vraiment, c'était pas la patiente la plus simple à traiter. Les résultats sont impressionnants parce que ça montre en gros que dans l'espace de 3 mois, l'insulinosécrétion a été complètement rétablie. La patiente n'a plus besoin d'insuline. L'équilibre glycémique d'une personne sans diabète, en absence de traitement à l'insuline, en ayant un traitement d'immunosuppression qui était celui déjà présent par l'effet de sa greffe hépatique.
C'est donc une prouesse, il faudra suivre cette patiente encore un moment pour s'assurer que ces nouvelles cellules font bien leur boulot. Deux autres patients sont d'ores et déjà en train de participer au même protocole, mais il faut le dire, c'est un traitement lourd qui n'a pas vocation à être généralisable en l'état. D'autres pistes de traitement sont en cours de recherche, notamment pour protéger les cellules productrices d'insuline, soit en les rendant invisibles au système immunitaire, soit en les mettant dans de petites capsules. L'autre enjeu de la recherche actuelle sur le diabète de type 1, ce n'est pas un traitement, mais une détection plus précoce de la maladie lorsqu'elle est déjà en marche, mais que les cellules productrices d'insuline ne sont pas encore détruites et donc que les glycémies sont normales.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la Science CQFD et à Dali Yaha aujourd'hui à la technique. Vous n'hésitez pas à nous podcaster sur franceculture.fr ou l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.